Allô Radio Immo, les auditeurs ont la parole.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allô Radio Immo, bienvenue sur Radio Immo avec aujourd'hui un numéro spécial puisqu'il est diffusé aujourd'hui, c'est la journée internationale du droit des femmes et évidemment on va parler des femmes dans l'immobilier parce que beaucoup se posent, il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc je reçois deux expertes avec lesquelles on va discuter justement. Alors à ma droite, Lina Mounir, bonjour.
Bonjour, ravie d'être présente.
Eh bien, ravie de vous recevoir. Vous êtes analyste senior pôle marché immobilier chez IEIF. Vous allez nous présenter l'IEIF dans quelques instants. Et puis, à ma gauche, Isabelle Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Observatoire de la Charte de la Parité dans l'immobilier. Et justement, nous allons parler bien déjà de cette charte qui a vu le jour l'année dernière. Donc, la Charte de la Parité dans l'immobilier et donc de l'Observatoire que vous avez décidé de mettre en place et on va expliquer pourquoi. Alors, première chose, Lina, l'IEIF, pouvez-vous nous présenter cet institut indépendant ?
Oui, alors en quelques mots, l'IEIF est un institut de recherche et d'études donc qui fonctionne pour des adhérents en fait. Donc on a 145 sociétés adhérentes, essentiellement des investisseurs, mais aussi des promoteurs et d'autres acteurs de l'immobilier. Et l'IEIF est une association et à ce titre, c'est également engagé et a signé donc la charte de la parité dans l'immobilier. Mais je vais laisser Isabelle présenter plus précisément cette charte.
Alors Isabelle, comment est née cette charte ? On va peut-être déjà parler du cercle des femmes de l'immobilier. Pouvez-vous déjà nous expliquer quel est ce cercle ?
Alors le cercle des femmes de l'immobilier, il a été créé il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans, à l'initiative de Joëlle Chauvin. Et son but était de mettre en lumière des femmes d'excellence et de créer entre elles un réseau d'amitié et de solidarité. Et donc, récemment, en 2021, sa présidente, Stéphanie Ben-Simon, et cinq autres femmes ont décidé de mener des travaux sur la parité.
Voilà, s'interroger en premier lieu sur cette parité dans l'immobilier.
Exactement, et donc ces cinq femmes se sont attelées à documenter le sujet et à rédiger un livre blanc qui met en avant les pratiques des entreprises dans le milieu de l'immobilier. Alors ce livre blanc, il a été préfacé par la ministre de l'époque de l'égalité homme-femme, même si c'est pas tout à fait le titre exact. Et ce qui est apparu important pour elle, ça a été de ne pas s'arrêter là, mais de proposer aux entreprises et aux organisations de l'immobilier un référentiel qui leur permette de se fixer des objectifs, de mettre en place des indicateurs et de suivre les résultats en matière de parité avec des actions concrètes en leur sein. Et donc, voilà, la charte de l'immobilier est née comme ça.
Donc vraiment pour mettre en pratique en fait ces bonnes idées, pas que ça ne reste pas que des idées et des idéologies, que ça soit vraiment concret.
Voilà, qu'il y ait vraiment des dirigeants qui s'impliquent, qui mettent en œuvre des plans d'action et qui mesurent les résultats de leurs actions. Alors, à propos justement de mesures, la charte c'était bien, mais il fallait pouvoir observer ce qui se passait derrière. D'où la création de l'Observatoire en mars 2022.
Donc cette charte, elle a été signée par 120 entreprises et organisations. Comment ça s'est passé, ces signatures ? Ça a été des entreprises qui ont été démarchées et qui ont répondu favorablement. Je crois que c'est plutôt ça dans la plupart des cas.
Alors, démarcher,
leur a proposé.
Effectivement, les entreprises du secteur ont été appelées à signer cette charte. Bon, on a essayé, les femmes en charge de ce sujet se sont attachées à faire parler de cette charte. Et c'est lors du CIMI fin 2021 que plus d'une centaine, en effet, d'entreprises se sont emparées de la charte, se sont engagées engagées. Et puis d'autres les ont rejoints en cours d'année 2022 et encore plus récemment. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs de notre secteur, au sens large, hein, y compris la construction, s'emparent de cette charte pour bouger.
Bien sûr, pour bouger. Donc l'observatoire, c'est donc vous observez les résultats avec des résultats publiés chaque année. C'est bien ça?
Alors effectivement, dans la charte de la parité, il y a un engagement de mesurer les choses et de mettre en place des indicateurs, mais aussi de répondre justement aux sollicitations de l'Observatoire. Une fois par an, ils acceptent de faire remonter un certain nombre de données. Alors c'est un questionnaire qu'établit l'Observatoire pour que ce dernier, avec l'aide d'un tiers de confiance, puisse agréger ces résultats et les présenter une fois par an.
Alors justement, Lina, vous allez parler en tant que senior analyste pour l'IEIF. Pourquoi avez-vous décidé de soutenir cette charte et cet observatoire notamment ?
Alors, à l'IEIF, on mène des études en général sur l'immobilier avec un point de vue souvent macroéconomique. L'idée, c'est de pouvoir mettre en perspective les évolutions de l'immobilier, soit d'un point de vue macroéconomique, soit d'un point de vue des évolutions aussi sociétales qui impactent l'immobilier et de suivre finalement toutes ces mutations des marchés. Et là où nous, on a aussi répondu présent, c'est le fait de pouvoir suivre aussi l'humain dans l'immobilier. Et c'est vrai que l'IEIF s'est engagé très rapidement pour signer la charte et pour aller encore plus loin, pour accompagner finalement l'Observatoire dans l'analyse de ces enquêtes, puisque finalement nous sommes aussi outillés pour pouvoir traiter ces données, pour pouvoir les mettre en perspective et pour pouvoir en ressortir ensuite des analyses. Donc ça nous a paru tout naturel d'accompagner l'Observatoire dès cette première année.
Oui, vous êtes un peu expert, hein, vous traitez la data en fait, vous analysez. Il y a de la data et vous expliquez en fait, après avoir analysé, ce qu'il en est.
Exactement. Donc nous, on a vraiment traité tout le volet quantitatif. Donc ce sont les enquêtes qu'évoquait Isabelle à l'instant. En fait, les entreprises ont toutes rempli un questionnaire. On a récupéré toute cette data. On l'a un peu nettoyée parce que c'est pas toujours uniforme. Et puis ensuite, on a traité ces données pour pouvoir en faire ressortir des choses, en croisant aussi les analyses parce que parfois, il y a des choses plus intéressantes qui peuvent en ressortir. Et je peux commencer à vous donner quelques résultats. Mais juste pour compléter ce préambule, il y a eu également un volet qualitatif qui a été mené par Chantal Schmitt, qui est sociologue. Oui. Et qui est venue compléter cette analyse qui était quantitative par des entretiens qualitatifs qu'elle a menés auprès de 10 entreprises qui avaient répondu aussi et qui étaient signataires de la charte, pour pouvoir finalement avoir un ressenti aussi des acteurs sur certains sujets, sur les causes aussi, sur façon dont elles approchaient les sujets, parce que c'est vrai que le chiffre en lui-même ne permet pas forcément de tout appréhender.
Alors justement, quand vous dites que les entreprises, je m'adresse peut-être à toutes les deux, quand vous dites que les entreprises ont rempli ces questionnaires, est-ce qu'on peut juger de leur bonne foi? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que l'Observatoire, il est là pour observer. Il n'est absolument pas là pour juger.
Bien sûr.
Et donc, on s'interdit toute forme, alors d'abord de communication sur les données, c'est évidemment hors de question. Et d'ailleurs, si on fait appel à un tiers de confiance, c'est pour que, justement, toutes les informations soient traitées de manière confidentielle. Après, il est hors de question également de commenter ce qui peut se passer ou dont on entend parler par telle ou telle personne sur les actions de telle ou telle entreprise. C'est absolument pas notre rôle. Après, la manière dont effectivement les entreprises s'approprient cette charte, ça dépend beaucoup en fait de la sincérité du dirigeant, tout simplement. Et je dirais que la sanction, si les choses n'évoluent pas, c'est d'abord par rapport à l'image de l'entreprise,
la réputation,
la marque employeur. Et c'est important également vis-à-vis des clients, parce que de plus en plus, la pression monte de la part des partenaires potentiels, des clients, des entreprises. On voit même des appels d'offres qui, aujourd'hui, sollicitent des éléments clairs sur la politique égalitaire ou non. Des entreprises entre hommes et femmes.
Et c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que maintenant, il y a l'e-réputation et les clients donnent leur avis, disent ce qu'ils pensent sur Internet en laissant des avis. Oui. Et ça compte beaucoup maintenant. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet avec un peu de data, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur la parité globalement dans l'immobilier ? Et je crois que le résultat n'est pas si mal.
Oui.
Globalement.
Alors, si on prend l'ensemble du salariat des 87 entreprises donc engagées puisque signataires qui ont répondu, on constate qu'on est à 51,7% de femmes dans le salariat, donc on est même un peu au-delà de la oui. parité, ce qui est un résultat plutôt favorable. Après, ce qui est compliqué dans notre secteur, c'est que l'immobilier couvre beaucoup de métiers très différents. Donc on a tenté de se comparer à des données nationales, puisque l'INSEE regroupe également par grande famille de métiers les données des salariés. Donc on sait qu'en moyenne France, on est à peu près à la parité. Donc nous, on serait au-dessus de la moyenne France, mais qu'on a des secteurs qui sont au-dessus, notamment le secteur activité immobilière, mais qui est beaucoup plus restrictif que ce que nous, on analyse, puisqu'on a notamment les métiers de la promotion immobilière qui font partie de notre panel et qui, eux, sont regroupés à l'INSEE avec la construction qui a un taux de parité
forcément,
beaucoup
ça plombe
plus
un peu
faible.
Les dossiers.
Exactement, on est autour de 12%. Donc voilà. On est sur des écarts très importants. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que, y compris chez les acteurs où on est un peu en deçà de la parité, finalement, les écarts sont pas non plus très importants. On a des métiers qui sont historiquement plus féminisés, notamment toutes les fonctions juridiques, RH, où là, on le voit, finalement, ce sont ceux qui sont féminisés depuis le plus longtemps, où on a encore des taux de, finalement, de féminisation du salariat qui sont plus élevés, parce que les stéréotypes de métiers reste finalement. On a des métiers de femmes, des métiers d'hommes qui perdurent. Mais on voit quand même des évolutions dans des métiers qui étaient jugés plus techniques, donc plus dévolus aux hommes auparavant, où finalement la féminisation a progressé, notamment par exemple les métiers d'architecte. On voit qu'on a de plus en plus de femmes.
Et je pense aussi, je vous arrête, dans la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, joue beaucoup dessus. Il y a une influenceuse, je ne sais plus comment elle s'appelle, qu'on a reçue, Kelly Cruz, je crois, qui est carreleuse et qui, justement, fait un tabac sur les réseaux sociaux parce que c'est une des seules femmes carreleuses. Elle est hyper féminine et on voit que c'est des métiers qui sont aussi ouverts aux femmes, au final.
Oui, et finalement, on y reviendra peut-être plus tard dans les leviers, mais c'est vrai que d'avoir des images de femmes, ça aide à se projeter. Et que pour les générations à venir, finalement, de pouvoir identifier des femmes qui font ces métiers, ça montre que c'est possible et ça aide à la féminisation aussi de ces métiers. Mais dans l'ensemble, finalement, sur le salariat, on est sur des chiffres plutôt bons, puisqu'on est à la parité pour la moyenne de notre panel.
Isabelle, vous attendiez à ce résultat concernant la parité au global dans l'immobilier ? C'est quelque chose...
Alors, quand on dit parité dans le salariat, c'est effectivement la proportion de femmes. Et on sait qu'il y a notamment pas mal de femmes dans les back-office, éventuellement dans les agences immobilières, enfin qu'il y a un certain nombre de métiers très féminisés. Mais on sait aussi, par contrepoint, qu'effectivement, il y a des secteurs, notamment tous les secteurs techniques, les métiers liés à la construction, où il y a beaucoup moins de femmes, ça n'est qu'une moyenne.
Alors justement, quand on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut constater, hein ? On va voir que c'est pas si rose que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Elina ?
Alors, finalement, c'était un peu notre seul indicateur où la parité était atteinte. Ouais. Parce que dès lors qu'on s'intéresse notamment à la part des femmes dans la direction, là, la parité n'est pas atteinte. On a en moyenne 3 femmes pour 5,5 hommes. Alors, on a pris Comex et Codir confondus parce que sinon la donnée était un petit peu difficile à traiter suivant les entreprises, les périmètres étant pas tout à fait
Donc ça veut dire que sur 8,5 personnes, il y a 3 femmes et 5,5 hommes.
Exactement. Et si on rentre un peu plus dans le détail et qu'on se dit, bon, s'il y a au moins une femme dans la direction, les grandes entreprises, alors là, ressortent bonnes élèves. Donc pour les entreprises, par exemple, de plus de 500 salariés, on voit qu'il y a 92% des entreprises qui ont au moins une femme dans leur comité de direction. Mais une femme, c'est pas forcément suffisant pour pouvoir peser dans un comité de direction. Et lors de la table ronde de notre matinée de février, il y a eu une intervention justement qui disait qu'elle se sentait un peu seule à un moment où elle était la seule femme dans un COMEX justement, et que c'était dur de peser, et qu'elle avait fait l'exercice avec son collègue homme de dire la même chose à deux moments différents de la réunion. Et lorsque elle le disait, il ne se passait rien. Et lorsque c'était son collègue homme qui disait la même phrase mot pour mot, alors là, c'était tout de suite une bonne idée et il y avait des réactions. Ouais. Donc cet exercice, bon, elle dit que ça date de quelques années, mais que ça prouve aussi que la voix de la femme seule dans la direction est pas forcément entendue, et que parfois c'est juste aussi cet effet un peu de quota. Mais si, on a une femme dans notre direction.
Et ça, juste la sociologue, par exemple, avec qui vous travaillez, comment elle l'explique ça? Comment on l'explique, ce comportement, qu'une femme est moins entendue à poste égal?
Parce qu'on a tendance, et là c'est un peu aussi ce qui explique cette différence, et le fait que la parité soit pas forcément atteinte dans la direction, c'est qu'on a tendance à faire confiance à ses pairs, donc à ceux qui nous ressemblent. Et je pense qu'en réunion de direction, c'est un peu la même chose. On écoute davantage, finalement, ceux qui nous ressemblent et qu'on a l'habitude d'écouter, en fait. Hein. C'est aussi des pratiques qui évoluent doucement. Et l'autre indicateur finalement intéressant, c'est que si on regarde par contre la proportion de femmes dans les comités de direction, là ce sont les petites entreprises qui sont bonnes élèves, où on a davantage de femmes, alors que dans les très grandes entreprises, certes elles sont nombreuses à avoir au moins une femme, mais la proportion de femmes est beaucoup plus faible dans le comité de direction, et là finalement leur note est moins élevée. Donc c'est vrai qu'il faut aller au-delà du simple indicateur de « oh, mais si, tout va bien, on a une femme dans notre comité de direction ». C'est vraiment la proportion qui est la plus intéressante.
Isabelle, un petit mot peut-être en réaction sur ces chiffres, notamment les femmes dans les directions, 35% hein, au final, quand on calcule 3 sur 8,5, ça fait quasiment 35%.
Effectivement, bon, alors on est tenté de dire c'est pas si mal, mais quand on regarde aussi quand même plus d'un quart des entreprises qui n'ont aucune femme, ni en CODIR, ni en COMEX.
Bon, 26%
c'est,
hein, des
entreprises. C'est quand même assez fort. par ailleurs, bon, on a parlé de proportion, mais il faut aussi prendre en compte le pouvoir dont disposent ces femmes, quels postes elles occupent. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonctions support qui sont à la main des femmes, et beaucoup moins de fonctions opérationnelles ou stratégiques. Et donc, c'est à la fois la proportion, mais aussi la qualité, le rôle des femmes dans ces comités de direction qui va faire qu'elles auront vraiment une influence ou pas, ou moins.
Et alors justement, on y vient, comment on l'explique ça? Comment on explique que bien les fonctions support, voilà, il y a beaucoup de femmes, et dès qu'on monte en tant que dans les responsabilités, il y en a moins?
Alors là encore, finalement, c'est une sorte de reproduction des biais cognitifs dont on parlait pour les métiers qui sont historiquement plus féminisés. On a ce même phénomène à l'intérieur des entreprises par type de direction. Donc on va avoir des directions qui, historiquement, sont identifiées comme correspondant davantage à des métiers de femmes. Donc c'est souvent communication, marketing, ressources humaines. Ce sont des postes qu'on identifie comme pouvant relever de compétences dites féminines, à l'opposé de compétences qui seraient jugées plus masculines et plus techniques sur des postes plus décisionnaires, notamment avec là encore dans les biais cognitifs cette idée que finalement on peut avoir plus d'autorité, plus de capacité de vision lorsqu'on est un homme en poste de direction. Et c'est pour ça qu'on a davantage d'hommes, notamment sur les postes de direction générale et sur les postes plus opérationnels en direction, hein, là, parce qu'on n'a pas on n'a pas vu tout le salariat, mais on a analysé vraiment les postes de direction qui font partie des COMEX et des CODIR.
Alors, il y a un type de poste qui est assez largement féminisé, c'est tout ce qui touche autour du RSE. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que c'était une fonction qui, au tout début, était relativement marginale, qu'un certain nombre de dirigeants ne savaient pas trop comment appréhender. Ça a été une chance pour certaines femmes qui sentaient l'enjeu de se positionner. Et ce qui est amusant de constater, c'est que à l'heure où tout le monde aujourd'hui est convaincu que c'est un poste important, eh bien la tentation est grande de les mettre sous la responsabilité, par exemple, du directeur financier. Les femmes, ou les hommes plutôt, quand ils voient la lumière, sont relativement tentés de s'approcher.
Et les femmes veulent moins être dans la lumière ?
Finalement, elles le redoutent sans doute davantage que les hommes, parce que d'abord, elles ont souvent une assez grande honnêteté intellectuelle, donc elles s'approprient difficilement et le travail des autres et la compétence. Elles ont toujours tendance à être assez sévères par rapport à elles-mêmes.
Mais ça, c'est des faits avérés quand vous dites qu'on... Si je vous suis, vous dites que les hommes sont moins honnêtes que les femmes.
Moins honnêtes, enfin disons que intellectuellement, ils se posent moins de questions sur leur capacité.
Souvent. Ils font.
Alors bon, c'est là on brasse de la généralité, mais dans l'ensemble, ce que nous disent les chasseurs de tête, c'est que sur une définition de poste donnée, les hommes en général se posent moins de questions sur les croix à cocher. Que les femmes. Elles ont tendance à vouloir avoir 110% de ce qui est demandé pour estimer juste de se positionner sur le poste, par exemple. Voilà.
Elles sont plus soucieuses. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont plus soucieuses ? Est-ce qu'elles sont plus angoissées, peut-être ? Elles se posent plus de questions ?
Certainement. Certainement. Elles ont certainement davantage peur de l'échec, une forme de manque de confiance en soi. Alors, ça change, ne serait-ce que parce que, comme Lina le disait, il y a des femmes qui sont aujourd'hui un peu dans la lumière et qui sont des modèles, en quelque sorte, qui prouvent aux femmes qu'elles peuvent assurer. Assumer un certain nombre de responsabilités. Mais oui, c'est...
Alors après, est-ce qu'il y a des causes aussi peut-être plus physiologiques, notamment la maternité ? Ce sont les femmes qui accouchent, hein. On n'a pas encore trouvé la recette pour que les hommes s'y mettent. Ça joue aussi énormément. Quand une femme devient maman, les cartes changent. Une femme qui est peut-être très carriériste avant d'avoir un enfant change totalement de point de vue, se dit finalement c'est peut-être pas si important que ça. Ça aussi ça joue et peut-être on voit des carrières qui s'arrêtent mais stagnent au moment où il y a des enfants. Est-ce que ça s'explique aussi par ça
Il est certain qu'il faut trouver un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Mais alors, d'une part, on peut dire que les entreprises peuvent faire mieux pour offrir les modalités pratiques qui permettent aux hommes et aux femmes de s'occuper de leur famille. Mais là encore, les femmes se mettent elles-mêmes parfois des barrières.
Oui.
Elles ont un petit peu peur. Et à ce sujet, moi, je recommande la lecture alors d'un livre qui commence à dater un peu. C'est celui de Sheryl Sandberg, la dirigeante de Facebook, qui explique comment elle a parlé justement des modalités pratiques qui lui faciliteraient la vie quand elle était enceinte et une fois qu'elle a accouché et qui encourage les femmes en leur disant quand vous prenez votre congé maternité, vous pouvez très bien sans enfin évidemment en prenant en exigeant de pouvoir prendre son congé maternité d'autre part, mais vous pouvez continuer à être performante pendant et après, voilà.
Oui, parce que c'est vrai que si c'est toujours les femmes qui accouchent et le congé maternité finalement représente 4 mois dans la vie d'une entreprise, c'est quand même pas non plus énormément. Et ensuite, on devient souvent parent à deux. Donc finalement,
oui, alors, c'est 4 mois, mais ça fatigue quand même parce que
bien sûr, non,
après l'arrivée du bébé dans la vie d'une femme,
le bouleversement que ça apporte. Mais ce que je veux dire, c'est que la perturbation dans la vie de l'entreprise, oui, par rapport à une vie d'entreprise qui est généralement quand même beaucoup plus longue, c'est pas grand chose à absorber en termes de conséquences. Après,
c'est pas grand chose, mais quand on a plusieurs enfants, il y a des femmes qui veulent 3-4 enfants, ça fait quand même, mine de rien, une durée assez conséquente, en fait. Est-ce qu'on doit se dire, bah tiens, moi qui veux une carrière longue, bah je dois n'avoir qu'un seul enfant?
Non, je pense pas, parce que 4 mois, ça peut être absorbable plusieurs fois, selon moi, dans la vie d'une entreprise. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, le fait d'être parent souvent à deux, c'est implique aussi de pouvoir avoir une meilleure répartition des charges. Et ce que on voit, c'est qu'en fait, au-delà de la question de la prise en compte dans les entreprises de ce nouvel équilibre entre la répartition des charges des deux parents, c'est aussi dans la société que ça doit se passer.
Bien sûr.
Et finalement, les mutations qui se feront dans la société sur la répartition de la charge mentale entre les deux parents, c'est là où ça va permettre aussi les évolutions dans les entreprises, puisque les entreprises sont aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en général.
Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ne sont pas du tout au même stade. Alors nous, on interroge aussi des professionnels. Et bien, dans certaines entreprises, bon, je les citerai pas, les congés paternité sont ont la même durée que les congés maternité. Donc ça, je trouve ça génial et incroyable. Et en revanche, on a discuté avec des professionnels dans leur entreprise, des jeunes papas quand ils partent un peu plus tôt parce qu'ils doivent aller chez le pédiatre, c'est des réflexions, c'est des mais attends, pourquoi c'est pas ta femme qui y va? Donc on voit vraiment que il y a vraiment des grosses disparités en termes d'avancement, en fait, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi avec l'Observatoire?
Ne serait-ce que sur la prise en compte. Alors là, nous, nos résultats ne nous ont pas permis cette année de pouvoir vraiment développer ce sujet, mais l'idée, c'est de le faire dans les prochaines enquêtes sur l'impact, du coup, et la prise en compte dans les entreprises, à la fois du congé maternité, mais aussi du congé paternité, parce que c'est là où ça va faire la différence. Et c'est vrai que rien que le fait qu'il soit rémunéré et qu'il y ait un complément de rémunération de la part de l'entreprise sur le congé paternité, ça peut aussi changer la donne, parce qu'aujourd'hui, de dire qu'il est obligatoire, il est passé dans la loi, mais si vous n'avez pas votre salaire complet, ouais, c'est pas forcément incitatif aussi pour les pères pour le prendre. Donc voilà, c'est tout ce genre de choses. Effectivement, il y a des entreprises qui allongent, d'autres qui n'allongent pas. Ce que la sociologue, elle a relevé lors des entretiens qualitatifs qu'elle a menés avec les entreprises, c'est qu'en fait, tout venait de la direction, et c'est là Isabelle a évoqué la sincérité de la direction, mais c'est aussi finalement la prise de conscience des dirigeants. Et vraiment, il n'y a pas ce mouvement du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas, et la prise en compte de la parité passe d'abord par des une direction qui a pris conscience des enjeux et qui veut améliorer la situation dans son entreprise.
Allez-y,
j'allais vous poser une question.
ce que disent certains dirigeants, c'est que la clé du succès, c'est d'embarquer vraiment tous les niveaux de l'entreprise. Ouais. Alors, par exemple, ça peut consister à créer un groupe de travail pour déterminer les objectifs, non pas les objectifs fondamentaux hein, de la charte, mais les objectifs complémentaires, les objectifs optionnels, et encourager les managers à écouter ce qui remonte au sein de leurs équipes. Et un dirigeant nous confiait que il avait été surpris justement de quand la parole se libère de ce qui pouvait émaner, dont il n'avait pas conscience dans son entreprise, dans le fonctionnement de son entreprise.
Sur justement la parité en général
sur les ressentis parfois des collaborateurs, pas seulement des collaboratrices sur ce qui se passait dans l'entreprise, sur l'organisation, les mentalités, les hommes qui n'étaient pas conscients de certains éléments de mal-être des femmes, et réciproquement.
Est-ce que la communication, ça peut être une des solutions pour justement favoriser cela?
Alors, il y a deux choses. Alors, je dirais formation, communication. Il est certain que parmi les obstacles à la parité, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, qu'on a évoqués sous des termes différents. Biais cognitifs des hommes et biais cognitifs des femmes également. Leur regard sur elles-mêmes. Donc, certaines entreprises proposent d'ailleurs des formations sur les biais cognitifs. Après, communication, là, ce que je mettrais là-dessous, c'est plutôt la nécessité de davantage mettre en avant les femmes pour qu'elles prennent davantage la parole au nom de leur entreprise, qu'elles soient considérées comme des femmes expertes. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, les journalistes s'en plaignent, on manque de femmes expertes qui s'expriment. Et c'est très important.
C'est vrai qu'on en cherche, nous, d'ailleurs, pour nos émissions. Un petit mot, alors, peut-être, sur maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a vu ce constat, là, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avec les entreprises donc qui ont signé cette charte ? Il y a plusieurs niveaux d'engagement, je crois.
Oui, alors déjà, il y a quatre objectifs fondamentaux. D'abord, on exige de l'entreprise, ou plutôt le dirigeant qui s'empare de la charte, choisit de se doter d'un reporting, donc de se fixer des objectifs avec des indicateurs et de partager les résultats au sein de son COMEX ou de son CODIR. Ensuite, le deuxième objectif, c'est l'égalité salariale. Alors, l'idée, c'est d'arriver à l'égalité salariale dès 2025. Donc, on verra si on est...
L'égalité salariale, est-ce qu'on n'a pas abordé les salaires ? C'est en termes de salaire ?
Alors, c'est en termes de salaire. Ce n'est pas forcément très bien précisé dans la charte. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à une égalité salariale sur tous les éléments de rémunération. Il est certain qu'il y a très probable, enfin je dis certain parce que malheureusement les biais sont partout et en matière de salaire variable ou d'attribution d'actions ou des choses comme ça,
c'est pas du tout équitable.
Il est certain que c'est pas équitable. Bon, on va d'abord regarder le salaire fixe.
Ouais. D'ailleurs à ce sujet, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais
sur ce qui est comparable. En tout cas, on a regardé une donnée qui est intéressante, c'est celle de la place des femmes dans le top 10 des salaires des entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que là, c'est le plus mauvais indicateur en termes de parité de toute notre enquête. Finalement, on n'a que 3,4 femmes en moyenne parmi le top 10 des salaires dans les entreprises, y compris dans certaines entreprises où on a une forte parité, où on a plutôt un résultat satisfaisant en termes de part des femmes dans la direction. Ça ne se traduit pas par une part importante de femmes dans le top 10 des salaires, ce qui est quand même un indicateur fort qui montre que les plus hauts salaires, en tout cas aujourd'hui, sont pas encore totalement ouverts aux femmes. Et sur les autres analyses qu'on a pu mener sur l'égalité salariale, on voit que c'est quand même encore difficile. Alors à ceci près qu'il faut aussi comparer des choses comparables, donc à fonction, compétences égales, mais voilà.
En tout cas, concernant les gros salaires, donc il y a que 34% de femmes qui en bénéficient.
Exactement, en moyenne. Et on n'a qu'un seul secteur, finalement, où la parité est atteinte. C'est celui du juridique RH, encore une fois, qui est un secteur très féminisé et historiquement très féminisé. Donc, les choses ne bougent que très lentement.
Et une manière d'arriver à l'égalité salariale, c'est vraiment de se doter d'outils pour vraiment pouvoir comparer à poste égal les salaires entre les hommes et les femmes, et puis d'avoir des personnes en charge qui une ou deux fois par an balaient le listing.
Parce que là, c'est quand même la pire des injustices. C'est-à-dire que pour un même poste, en fait, un homme gagne plus qu'une femme.
Malheureusement, c'est souvent le cas, oui.
Et comment ça s'explique, ça, encore?
Comment ça s'explique? Alors, il y a sans doute un poids de l'histoire. Des femmes qui... des hommes, on disait, qui ont tendance à davantage faire confiance à d'autres hommes.
Ils ont fait confiance vu qu'ils attribuent un poste qui leur ressemble.
Peut-être des femmes qui sont moins exigeantes aussi.
Qui savent moins négocier leur salaire, par exemple.
Oui, souvent. Enfin, ce que nous disent certains DRH, c'est qu'elles réclament peu.
D'accord.
Elles réclament moins les promotions, elles réclament moins les augmentations de salaire que les hommes. C'est en train de changer.
Donc réclamez, mesdames, réclamez les plus hauts salaires, allez-y.
C'est à la fois le syndrome de l'imposteur qui sévit plus chez les femmes que chez les hommes, et aussi le fait que, un peu le syndrome de la bonne élève qui estime que finalement, si son travail est bien fait, elle devrait percevoir la rémunération en conséquence sans avoir nécessairement besoin de le réclamer. Et là, c'est plutôt l'éducation et le poids finalement aussi des stéréotypes et de la façon dont on élève nos enfants qui fait que un homme aura plus confiance et plus tendance à réclamer en estimant que ça lui est dû, et une femme attend parce qu'elle juge naturel que si elle a bien fait son travail, quelle est la rémunération. Voilà.
Quelles sont les prochaines étapes donc pour la charte?
Alors, je termine sur les objectifs fondamentaux, puisque c'est quand même important. On se rapproche de l'objectif de la loi Rixin, c'est-à-dire que il faut qu'en 2027, il y ait 30% de femmes en COMEX CODIR et 40% en 2030. Et dernier objectif, c'est justement mettre en lumière les femmes de l'entreprise et refuser absolument de participer à des conférences, des manifestations ou des prises de parole où le panel ne comporte pas de femmes.
Voilà. D'accord. Est-ce que mettre en place comme ça des quotas, vous pensez, ça peut pas être à double tranchant? Est-ce que ça peut pas desservir justement
Évidemment, la chose à ne pas faire, ce serait. De choisir des femmes à compétences moindres que des hommes.
Mais c'est la question qui se pose, c'est-à-dire que s'il y a un homme et une femme avec un homme avec plus de compétences, un CV plus gros, enfin plus long, mais qu'on se dit il faut respecter le quota, donc on va choisir, c'est aussi de la discrimination.
Oui, bien sûr.
Mais surtout, ça met en doute certaines nominations de femmes où on va se dire qu'elles sont là que pour les quotas.
On perd en crédibilité.
Donc on ne prône pas ça. Mais en tout cas,
Mais est-ce que les quotas, justement, imposer des quotas, c'est pas dangereux en ce sens? Est-ce que
Ce serait dangereux si effectivement ça conduisait obligatoirement les entreprises à avoir ces comportements discriminatoires. Ouais. Mais par contre, on voit bien que le fait de se fixer malgré tout des objectifs chiffrés, ça fait progresser
ça
les
aide,
choses.
Ouais.
Ça s'est vu pour la loi Copé-Zimmermann. Et ça se verra sur la loi Rixin, c'est une évidence. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'à compétences égales, les femmes, les dirigeants, choisissent des femmes. Voilà, pour faire progresser les choses.
Alors là, les prochaines étapes, donc pour l'année prochaine, les prochains résultats de l'observatoire, c'est ça,
Alors l'année prochaine, effectivement, on va reconduire ce qu'on a fait cette année. On a fait une restitution le 10 février dernier. Donc là, nous allons nous atteler au questionnaire de cette année. On va le modifier un petit peu, le compléter. Et selon un calendrier assez similaire à ce qu'on a fait l'année dernière, donc on va aboutir à une restitution des prochains résultats annuels en début d'année prochaine.
Oui, parce que pour bien préciser, le questionnaire de cette année portait sur 2021. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir cette base zéro et d'avoir la progression l'année prochaine.
Oui, forcément, de voir du coup quelles entreprises ont joué le jeu. Voilà. Eh bien, merci infiniment, mesdames. L'émission touche à sa fin. Merci Lina Mounir, merci Isabelle Rossignol d'être venue sur le plateau. Cette émission se termine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allo Radio Immo.
Merci à vous.
Allo Radio Immo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.immo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.